Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonsoir à tous. Les titres dans un instant. Restez avec nous. Voici l'essentiel de cette édition. Est de la RDC, la Belgique dit stop au silence européen. Maxime Prévost réclame des mesures immédiates pour endiguer la crise humanitaire et sécuriser la région. Un pox, un recul marqué, mais la bataille continue. La RDC enregistre une baisse significative des cas selon le dernier conseil des ministres. Invité du journal, Paul Sapou, président de la CNDH, s'exprime sur la vague d'arrestations qui secoue la scène politique congolaise. Entre garantie procédurale, rôle de la CNDH et enjeux démocratiques, il revient sur les efforts menés pour protéger les droits des personnes arrêtées. On ouvre ce journal par une déclaration forte du chef de l'État congolais à Kinshasa lors de la cérémonie d'échange de vœux avec le corps diplomatique. Félix Tshisekedi a une nouvelle fois dénoncé avec fermeté le soutien de l'armée rwandaise au M23 actif dans l'est de la RDC et a appelé la communauté internationale à passer des paroles aux actes. Selon le journal Fox Time, le président a martelé que la RDC n'attend plus de simples messages de sympathie. Nous attendons de la communauté internationale bien plus qu'un discours de solidarité, mais un soutien concret et un engagement ferme. La RDC ne demande pas de l'aide, elle exige une solidarité juste et équitable. La communauté internationale doit transformer ses déclarations en actions tangibles et dissuasives. Félix Tshisekedi a par ailleurs rappelé que le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 constitue une ligne rouge à ne jamais franchir. Et c'est dans ces mêmes contextes de mobilisation autour de la crise à l'est de la RDC, une prise de position forte nous vient cette fois de la Belgique. Bruxelles alerte l'Union européenne sur ce qu'elle qualifie des conflits oubliés dans l'est du pays. Le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères a tiré la sonnette d'alarme ce vendredi à l'issue du Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne, décrivant une situation sécuritaire et humanitaire plus critique que jamais, marquée notamment par une recrudescence de violences sexuelles. Face à cette urgence, il appelle les États membres à une action européenne plus déterminée et immédiate. On écoute Maxime Prévost dans cet extrait choisi par Martial Papimukeba.
Sur le terrain, la situation est pire que jamais, extrêmement préoccupante sur le plan humanitaire. C'est une des raisons pour laquelle nous avons poussé avec d'autres collègues pour que cela figure à l'agenda de ce jour. Je m'étonne d'ailleurs que ce soit seulement la deuxième fois que la situation à l'est du Congo soit traitée en l'espace d'un an. Ça ne peut pas être un conflit oublié, c'est un conflit pour lequel l'Union européenne a aussi un rôle à jouer. Et donc, nous devons, à côté du processus de médiation politique que nous ne souhaitons pas parasiter et qui doit, je l'espère, aboutir à de réelles solution de cessez-le-feu et de paix, plaider pour qu'il y ait à nouveau ce retrait des troupes du M23 et du Rwanda, que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC soient préservées. L'urgence pour le moment, elle est à l'action européenne pour résoudre la situation humanitaire. Une femme est violée toutes les 4 minutes, un enfant toutes les 30 minutes, et donc il est urgent qu'on puisse notamment réactiver l'aéroport de Goma par exemple, pour délivrer massivement cette aide humanitaire, qu'il n'y ait pas de doute, il n'y a pas de volonté d'un usage militaire de l'aéroport.
Depuis une année, l'AFC M23, soutenu par le Rwanda, occupe notamment les villes de Goma et de Bukavu, ainsi que plusieurs localités du Nord Kivu et Sud Kivu. Les affrontements se poursuivent dans ces deux provinces entre ce mouvement armé et les FRDC appuyés par les Wazalendo. Et dans ce contexte où les appels se multiplient pour une action humanitaire plus forte dans l'est du pays, une note d'espoir nous parvient du Nord Kivu. Plus de 4500 400 enfants ont été réunifiés avec leurs familles au cours de l'année 2025 dans les territoires de Rutshuru, Masisi, Lubero, Nyiragongo, ainsi que dans la ville de Goma. Un travail de longue haleine mené par l'Union pour la paix et la promotion de droits de l'enfant au Congo, UPDECO, avec l'appui de l'UNICEF. Ces enfants avaient été séparés de leurs parents durant les périodes de guerre et aujourd'hui, les familles saluent des interventions qui mettent fin à des mois d'angoisse et d'incertitude. Les détails avec Rosalie Zawadi.
Cette mère du village de Kinyandoni dans les Rutshuru raconte avoir perdu son enfant en janvier dernier lors des affrontements alors qu'elle vivait dans un camp de déplacés autour de Goma. Pendant qu'elle avait perdu tout espoir, les membres de l'UPDECO lui ont ramené son enfant à domicile. Comme lui, ils sont au total 4710 enfants à avoir retrouvé leurs proches grâce à ces projets. Pour Gédéon Lukando, chef des programmes de l'UPDECO, ces résultats sont les fruits d'une synergie d'efforts entre plusieurs acteurs.
Nous travaillons avec les réseaux communautaires pour la protection de l'enfance. Les RECOPE nous aident pour identifier les familles dans leur milieu. Mais à part les RECOPE, nous avons des points focaux recrutés localement. Mais à part aussi ces engins locaux, nous avons des structures partenaires locales, mais aussi y compris l'autorité locale, qui nous aide à identifier les familles et des enfants séparés.
Ce travail de réunification a été mené dans le cadre du projet Identification, Documentation, Recherche et Réunification familiale des enfants en rupture familiale, un projet mis en œuvre avec l'appui de l'UNICEF. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
L'actualité politique évolue dans les centres de la RDC. Les gouverneurs et le vice-gouverneur de la province du Sankoro seront bientôt connus. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a publié ce jeudi le calendrier officiel de leur élection, un chronogramme qui détaille toutes les étapes du processus depuis le préparatif technique jusqu'à la proclamation des résultats provisoires. Les grandes lignes de ce calendrier avec Esther Nalafina.
Du 28 janvier au 3 février, la CENI prévoit les préparatifs techniques, la formation du personnel et l'aménagement du bureau de réception et traitement de candidatures BRTC. Du 4 au 10 février, dépôt de candidatures auprès du secrétariat exécutif provincial de la CENI à Lusambo. Les listes provisoires des candidats seront publiées le 19 février prochain. Du 2 au 6 mars, soit 2 jours pour le traitement des contentieux par la Cour d'appel du Sankoro après le dépôt des recours. Le 9 mars est consacré à la publication de la liste définitive de candidats. La campagne électorale aura lieu entre le 20 et le 22 mars prochain. C'est le 24 mars que se tiendra l'élection du gouverneur et vice-gouverneur par les députés provinciaux, suivi de la publication des résultats provisoires par l'Assemblée plénière de la CENI. Signalons que ce scrutin intervient dans un climat particulier. Le gouverneur sortant Victor Kitenge avait été déchu le 26 mai dernier par l'Assemblée provinciale. Les élus lui reprochaient une mauvaise gestion des affaires provinciales, notamment sur le plan sécuritaire, ainsi que son refus de répondre aux convocations des députés provinciaux. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Et dans le registre de la santé publique, une évolution encourageante mais encore fragile. L'épidémie de Mpox affiche une régression nette en Afrique et particulièrement ici en RDC. Mais attention, elle n'est pas encore totalement maîtrisée. C'est le ministère de la Santé qui l'a confirmé lors du dernier conseil des ministres tenu vendredi 30 janvier ici à Kinshasa. On écoute Patrick Mouyaya dans cet extrait du compte-rendu sélectionné par Jean Gando.
Au sujet du Mpox, il a été rapporté que le directeur général d'Africa CDC a procédé à la levée de l'urgence des santé publique des sécurités continentales pour cette épidémie après la levée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS en septembre 2025. Cette décision fait suite à l'amélioration de la situation épidémiologique avec la baisse considérable des nombres de cas des décès au niveau du continent, notamment en République démocratique du Congo, en Sierra Leone, au Burundi, en Ouganda. Cependant, la maladie n'est pas finie, elle reste endémique. Ainsi, le ministère de la Santé maintient les Mpox comme une urgence nationale jusqu'en mars 2026.
Dans la continuité de cette actualité sur les Mpox, la maladie continue de susciter l'inquiétude dans certaines régions du pays, dans la province de la Tchopo et plus précisément dans la zone de santé des Basoko. Le virus poursuit sa progression et ce n'est pas tout. Le choléra demeure lui aussi une préoccupation majeure avec de nouveaux cas signalés dans la région. Jacques Moukonkole nous en dit plus.
Du 1er janvier courant au 28 du même mois, soit 4 semaines durant, le choléra fait des victimes à Basoko. 57 cas enregistrés pendant cette période, dont 2 décès. Parallèlement à cette pathologie, la Mpox se fait également parler d'elle. 3 personnes en sont mortes. Selon le superviseur d'hygiène, eau et assainissement, Robert Essabé, les conditions sanitaires laissent beaucoup à désirer dans cette entité. En dépit des campagnes de sensibilisation organisées par des équipes cadres de la santé, seuls 17% de la population locale utilise des toilettes hygiéniques. La proximité avec le fleuve Congo et la rivière Aruwimi fait qu'une partie de la population se rabat à ces cours d'eau comme dépotoirs et leur lieu d'aisance. En conséquence, cette situation favorise la propagation des maladies d'origine hydrique au sein de la population. Afin de pallier la carence d'eau potable à Basoko, le superviseur d'hygiène eau et assainissement plaide pour l'amélioration des conditions y afférentes.
Nous plaidons par rapport à la construction et réhabilitation des points d'eau dans la zone de santé de Basoko pour améliorer les conditions sanitaires de la population.
Il recommande également l'édification des latrines publiques et la sensibilisation de la population sur le traitement de l'eau. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Toujours dans le volet santé, la province du Congo central fait face à une recrudescence inquiétante de l'épidémie de rougeole. Depuis le début de l'année 2026, 351 nouveaux cas ont été enregistrés dans 10 zones de santé avec 5 décès déjà signalés. L'information a été rendue publique par le ministre provincial de la Santé dans un message adressé à la population pour éviter l'expansion de cette maladie hautement contagieuse. Selon le docteur Ovid Yobila, le gouvernement provincial a renforcé les actions de riposte pour tenter d'éradiquer la rougeole. Il appelle les parents à faire vacciner tous les enfants de 0 à 23 mois dans les centres de santé le plus proche. On écoute le docteur Ovid Yobila dans cet extrait de son message sélectionné par Nana Plurich Mambou.
Depuis l'année 2025, notre pays fait face à une recrudescence de l'épidémie de rougeole. Il s'agit d'une maladie hautement contagieuse qui touche principalement les enfants non vaccinés et peut entraîner de graves complications, voire la mort. La province du Congo central n'est malheureusement pas épargnée. En 2025, la province a enregistré 5 décès sur 479 cas de rougeole notifiés dans 28 zones de santé. Sur les 192 échantillons prélevés, 96 ont été confirmés positifs. Depuis le début de l'année 2026, la situation demeure préoccupante avec au moins 5 décès sur 351 nouveaux cas enregistrés. Ces chiffres confirment que la province du Congo central est actuellement en situation d'épidémie de rougeole. Face à cette situation, le gouvernement provincial du Congo central a enregistré et renforcé les actions de riposte. Ces actions portent notamment sur le renforcement de la surveillance épidémiologique, la prise en charge des cas dans les structures de santé et l'organisation des activités de vaccination. J'en appelle à la responsabilité de chaque parent et de chaque famille. Amener immédiatement l'enfant au centre de santé en cas de fièvre, d'éruption cutanée généralisée, de toux, de rougeur des yeux, d'écoulement nasal et de tout autre symptôme suspect.
Au Kasaï central, un dossier qui inquiète la population des Ndemba. Les travaux de construction de 3 châteaux d'eau lancés dans le cadre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques sont à l'arrêt depuis plus d'un an. Ces ouvrages devraient améliorer l'accès à l'eau potable pour les habitants des Apozapo de la commune rurale des Ndemba ainsi que pour ceux des Benaleka. Mais aujourd'hui, les chantiers sont abandonnés, laissant les communautés dans l'attente. La nouvelle société civile congolaise du territoire d'Ndemba appelle le gouvernement à s'impliquer urgentement pour relancer et achever ces travaux essentiels. Les détails dans ce reportage signé André Katinde Ngalamulume.
Selon les coordonnateurs territoriaux de la nouvelle société civile congolaise de Demba, plusieurs raisons expliquent l'arrêt de ces travaux. Ils citent notamment le retard dans les financements du projet par le gouvernement central, les vols répétés de certains matériaux par l'équipe de maintenance et par une partie de la population, ainsi que la faible implication des autorités locales dans la gestion des biens publics. Au niveau des Aposapo, tout est terminé, il ne reste plus que l'eau soit distribuée à la population. À Demba, les tuyaux de distribution sont déjà installés, mais le château d'eau est encore en chantier. Enfin, à Benelika, les travaux de construction sont achevés, mais les tuyaux ne sont pas encore installés. Face à cette situation, Marcel Massanka, coordonnateur territorial de la nouvelle société civile congolaise, appelle toutes les parties prenantes à s'impliquer afin de permettre l'achèvement de ces ouvrages et de garantir à la population de Demba l'accès à l'eau potable.
Que tout intervenant puisse écouter notre plaidoyer afin que ce projet aboutisse. Nous voulons avoir de l'eau qui peut asservir toute notre population du territoire de Demba.
Signalons que ces travaux ont débuté en 2024 pour une durée d'une année. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Pakistan, près de 90 personnes ont été tuées lors d'une série d'attaques coordonnées menées par des groupes séparatistes dans la province du Baloutchistan ce samedi. Selon les autorités, au moins 11 civils et 10 membres des forces de sécurité ont perdu la vie, tandis que 67 rebelles ont été tués dans les affrontements qui ont suivi, d'après les informations relayées par l'AFP et confirmées par plusieurs médias internationaux. Ces attaques surviennent au lendemain d'une opération militaire au cours de laquelle l'armée pakistanaise affirme avoir éliminé des dizaines de combattants séparatistes dans cette région stratégique, pauvre mais riche en ressources, située à la frontière de l'Iran et de l'Afghanistan. Le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a exprimé son soutien total aux forces armées, saluant leur détermination à défendre le pays. Il a également accusé l'Inde de soutenir les groupes séparatistes, une accusation récurrente que New Delhi rejette systématiquement.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui, c'est Paul Nsapu, président de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH. Il revient sur la vague d'arrestations qui touche ces derniers temps plusieurs personnalités, dont des figures de l'opposition. Il explique le rôle que joue actuellement son institution et les efforts déployés pour garantir le respect de droits des personnes interpellées. Paul Nsapu est au micro d'Alain Hirung.
Paul Nsapu, bonjour. Plusieurs personnalités dont des opposants ont été arrêtés par le Conseil national de cyberdéfense CNC et plusieurs observateurs dénoncent des arrestations arbitraires. Quelle est la réaction de la CNDH?
La CNDH aborde cette situation avec responsabilité et sang-froid. Elle suit avec attention l'ensemble des interpellations et arrestations signalées, y compris celles de certaines personnalités politiques et même civiles, sans distinction de statut ou d'appartenance. Et aussi, conformément à son mandat légal, la CNDH se prononce ni sur la culpabilité, ni sur l'innocence des personnes concernées. Encore moins, la CNDH ne se prononce pas sur le fond des procédures judiciaires en cours. Sa préoccupation majeure ou essentielle demeure la protection de la liberté individuelle, le respect des garanties procédurales et la prévention de toute atteinte aux droits fondamentaux dans un contexte national particulièrement sensible.
Que répondez-vous à certains Congolais qui trouvent que votre dernier communiqué sur ces arrestations est ambigu et laisse penser que la CNDH n'est qu'une caisse de résonance du pouvoir en place?
Oui, nous comprenons les attentes et parfois les frustrations exprimées par une partie de la population. Toutefois, il est important de rappeler que la mission d'une institution nationale des droits de l'homme n'est pas de produire des déclarations émotionnelles aux partisans, mais de communiquer avec rigueur, responsabilité et impartialité. Notre communication est volontairement mesurée parce qu'elle doit préserver l'indépendance de l'institution, éviter toute confusion avec le rôle des juridictions et garantir la crédibilité de nos futures interventions. Cette prudence ne signifie pas le silence et la neutralité ne signifie pas l'indifférence. D'ailleurs, beaucoup de milieux avisés et informés nous ont beaucoup félicités à la diffusion de notre communiqué à propos de cette situation, des arrestations, des interpellations.
Que fait concrètement la CNDH pour s'assurer que les droits des personnes arrêtées sont respectés?
D'abord, la CNDH collecte et analyse les informations relatives à ces interpellations et arrestations à travers ses services techniques et ses bureaux de représentation provinciale. Et cette récolte d'informations peuvent surgir du côté des avocats ou des membres des familles de la personne arrêtée ou interpellée. Cette source-là et tout ça nous permet de réaliser une analyse et voir la nécessité de mener des recherches, dans certains cas, répertorier, retrouver, identifier l'endroit avec le concours, bien sûr, à la suite d'un dialogue, échange avec responsables de ces services de sécurité. Ensuite, lorsque cela est nécessaire, la CNDH procède à des visites de monitoring dans les lieux où sont gardées ces personnes, échange avec la CNDH, échange avec les autorités compétentes et aussi maintient un contact avec les avocats et les membres des familles des personnes en difficulté. Alors, dans tout ça, nous essayons de conseiller des responsables plutôt des institutions habilitées à mener des enquêtes.
Et pour terminer, quel message pouvez-vous adresser à certains Congolais qui pensent que la CNDH est à la solde du pouvoir en place?
La CNDH, mon institution, tient compte du contexte exceptionnel que traverse notre pays. Un contexte marqué par une agression extérieure et des menaces réelles contre la sécurité nationale et la stabilité des institutions. La CNDH respecte la liberté d'opinion, mais elle rejette toute lecture réductrice de son rôle.
Paul Nsapu, je vous remercie.
Vous venez d'écouter Paul Nsapu, président de la Commission nationale de droits de l'homme, qui a expliqué le rôle de la CNDH face aux arrestations signalées ce dernier temps dans le pays. Merci d'avoir suivi ce journal sur Radio Capi. Mise en onde, Alain Goy, coordination Jude Mystère Bilonda et présentation moi-même, Gisèle Cage. Pour plus de détails, consultez notre site radiocapi.net et retrouvez ce journal en podcast à tout moment. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.